Pétron, le Satyricon, chapitre 101, traduction de Saint-Évremond, la matrone d'Éphèse. Il y avait une dame à Éphèse, en si grande réputation de chasteté, que les femmes même des pays voisins venaient la voir par curiosité comme une merveille. Cette prude, ayant perdu son mari, ne se contenta pas, selon la coutume, d'assister au convoi tout échevelé et de se battre la poitrine devant le peuple, elle voulut suivre le défunt jusqu'au monument et, après l'avoir mis dans un sépulcre à la manière des Grecs, garder le corps et pleurer nuit et jour auprès de lui. Se désolant de la sorte et résolu de se laisser mourir de faim, les parents, les amis ne l'en surent détourner. Les magistrats, rebutés les derniers, l'abandonnèrent, et une femme si illustre pleurait de tous comme une personne morte, passait déjà le cinquième jour sans manger. Une suivante fidèle et affectionnée était toujours auprès de la misérable, qui mêlait ses larmes aux siennes, et renouvelait la lumière toutes les fois qu'elle venait à s'éteindre. On ne parlait donc d'autre chose dans la ville, et tout le monde demeurait d'accord que c'était le premier exemple d'amour et de chasteté qu'on eût jamais vu. Il arriva qu'en ce même temps, le gouverneur de la province fit attacher en croix quelques voleurs tout proches de cette même cave où la vertueuse dame se désolait sur le corps de son cher époux. La nuit suivante, comme un soldat qui gardait les croix de peur que les corps ne fussent enlevés, eut aperçu de la lumière dans le monument et entendu les plaintes d'une personne affligée, par un esprit de curiosité commun à tous les hommes, il voulut savoir qui ce pouvait être et ce qu'on y faisait. Il descend donc au sépulcre et, surpris à la vue d'une fort belle femme, il demeura d'abord épouvanté, comme si c'eût été quelque fantôme, puis, ayant vu un corps mort, étendu devant ses yeux, considéré des larmes, un visage déchiré avec les ongles et toutes les autres marques de désolation, s'imaginant à la fin ce que c'était, qu'une pauvre affligée s'abandonnait au regret, et ne pouvait souffrir sans désespoir la mort de celui qu'elle avait perdu, il apporte son petit souper au monument et commence à l'exhorter de ne persévérer pas davantage dans une douleur inutile et des gémissements superflus, que la sortie de ce monde était la même pour tous les hommes, qu'il fallait aller tous en même lieu, et ces autres raisons dont on a coutume de guérir les esprits les plus malades. Mais elle, irritée encore par une consolation si peu attendue, redouble son deuil, se déchire l'estomac avec plus de violence et s'arrache les cheveux qu'elle jette sur ce misérable corps. Le soldat ne se rebute point pour cela, et avec les mêmes exhortations, il essaye de lui faire prendre quelque nourriture, jusqu'à ce que la suivante, gagnée sans doute par l'odeur du vin autant que par son discours, tendit la main à celui qui les invitait si obligeamment, et, comme elle eut repris quelque vigueur par le boire et le manger, vint à combattre elle-même l'opiniâtreté de sa maîtresse. « Et que vous servira cela, dit-elle, de vous laisser mourir de faim, de vous ensevelir toute vive et rendre à la destinée une âme qu'elle ne demande pas encore ? Pensez-vous que des morts, les insensibles cendres, vous demandent des pleurs et des regrets si tendres ? Quoi ? Vous voulez ressusciter un mort contre l'ordre de la nature ? Croyez-moi, défaites-vous d'une faiblesse dont les seules femmes sont capables, et jouissez des avantages de la lumière, tant qu'il vous sera permis. Ce corps que vous voyez devant vous montre assez le prix de la vie et vous avertit que vous devez mieux l'aménager. Personne n'écoute à regret quand on la presse de manger en de pareilles occasions, et on se laisse persuader aisément de vivre. Ainsi, cette femme, exténuée par une si longue abstinence, laissa vaincre son obstination et se remplit de viande avec la même avidité que la suivante qui s'était rendue auparavant. Au reste, vous savez quelles tentations viennent d'ordinaire après le repas. Avec les mêmes armes qu'employa le soldat pour combattre son désespoir, avec les mêmes, il attaque sa pudicité. Et le jeune homme ne paraissait à la prude ni désagréable, ni sans esprit. La suivante, n'oubliant rien pour lui rendre de bons offices, et disant ensuite à sa maîtresse « Songez, songez à vous, voyez votre intérêt, et ne combattez pas un amour qu'il vous plaît. Qui m'arrête davantage ?» La bonne dame eut la même abstinence en ce qui regarde cette partie de son corps, et le soldat, pleinement victorieux, vint à bout de l'un et de l'autre. Ils demeurèrent donc ensemble, non seulement la première nuit de leur jouissance, mais encore le lendemain et le jour d'après, les portes si bien fermées que quiconque fût venu au monument, soit connu soit inconnu, aurait cru sans doute que la plus honnête femme du monde avait expiré sur le corps de son mari. Le soldat, charmé de la beauté de sa dame et du secret de sa bonne fortune, achetait tout ce que son peu de biens lui pouvait permettre et, à peine la nuit était-elle venue, qu'il la portait dans le monument. Cependant, les parents d'un de ces pendus, comme ils s'aperçurent qu'il n'y avait plus de garde, enlevèrent le corps une nuit et lui rendirent les derniers devoirs. Mais le pauvre soldat, qui s'était laissé abuser pour demeurer trop longtemps attaché à son plaisir, voyant le lendemain une de ses croix sans cadavre, alla trouver sa maîtresse dans la crainte du supplice et lui conta sur tout ce qui était arrivé. Qu'au reste, il était résolu de ne point attendre sa condamnation et que, se faisant justice lui-même, il allait punir sa négligence de sa propre main. Pour toute grâce qu'il la suppliait d'avoir envers sa sépulture et de lui préparer ce même tombeau, fatal à son époux et à son galant. Cette femme, aussi charitable que prude, « Eh, oh Dieu, ne plaise, dit-elle, que je vois en même temps les funérailles de deux personnes si chères. Moi, j'aime mieux pendre le mort que de faire périr le vivant. » Selon ce beau discours, elle fait tirer le corps de la bière pour l'attacher à cette croix où il n'y avait plus rien. Le soldat profita du conseil ingénieux d'une femme si avisée, et le lendemain, tout le peuple s'étonna de quelle manière un homme mort avait pu aller au gibet.